Imaginez quelqu'un qui, sous le règne d'un roi Louis, va de place en place annonçant la destruction imminente de Paris. On l'aurait arrêté en moins de deux, et alors tout aussi vite on lui aurait tranché la tête ou bien jeté dans une oubliette à tout jamais. C'est ce que le prophète Jonas risque en parcourant les rues de la ville royale de Calah, au sud du triangle de Ninive. En fait, c'est sans doute ce qu'il souhaite, car il préfère qu'on le fasse taire ou bien qu'aucun habitant ne lui prête la moindre attention, afin que le châtiment de Dieu tombe sur l'agglomération de Ninive et la raye de la carte. Je continue de lire dans le troisième chapitre du livre de Jonas. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Jonas arrive en vue de l'agglomération de Ninive et la première ville à se présenter à lui est Calah, aujourd'hui Nimroud, où on a retrouvé les restes des 4 palais magnifiques. Cette ville est située dans l'angle formé par le fleuve Tigre et son affluent, le Zab. Après avoir fait les places de Calah, Jonas doit parcourir de vastes espaces cultivés avant d'arriver à la prochaine ville. Comme je l'ai déjà dit, on en connaît certaines, mais pas toutes. Jonas annonce une catastrophe. Un terme qui est généralement utilisé pour décrire la destruction de Sodome et Gomorre. En d'autres mots, l'Éternel a l'intention de faire subir à Ninive le même sort que les villes maudites. Or, à lire ce récit, on constate que la ruine de toutes les villes de la vallée de Sidim et de Sodome et Gomorre en particulier furent complètes, puisque les seuls survivants furent Lot, le neveu d'Abraham, ainsi que ses 2 filles. Si l'Éternel n'a pas envoyé un prophète à Sodome, c'est probablement parce que Lot y résidait et assumait ce rôle. De plus, Dieu a fait connaître à Abraham ses intentions et lui a donné l'occasion d'intercéder pour ses villes. Dans un cas comme dans l'autre, l'Éternel donne une chance de salut aux coupables. Jonas se déplace d'un endroit à l'autre et annonce un message qui ne pourrait pas être plus simple, et il ne donne aucune explication. Il ne s'embarrasse pas ni du pourquoi ni du comment. Il ne dit pas non plus qui il est ni d'où il vient. Il s'en tient strictement à la menace que Dieu lui a ordonné de faire, tout en espérant que personne n'en tiendra compte. Il dit littéralement « Encore 40 jours, et Ninive est renversée !» Il utilise un participe passé comme si dans sa vision prophétique, il voyait le triangle de Ninive détruit et totalement ruiné. Par sa concision, le message de Jonas est sec comme un coup de trique, froid comme du métal et brutal comme la lame de la guillotine. Cependant, cette menace est soumise à conditions et ne va pas s'appliquer automatiquement. Au grand chagrin de Jonas, si les Assyriens se repentent, Dieu reviendra de sa décision de les anéantir. Je continue le texte. Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et, quelle que fût leur condition sociale, du plus petit au plus grand, ils revêtirent des habits de toile et de sac. La coutume qui consiste à endosser un habit de toile, de sac, quand on est confronté à une tragédie, ne se pratique pas uniquement en Israël, mais est courante chez tous les peuples du Moyen-Orient. Le message proféré par Jonas se répand comme une traînée de poudre et le mari explose. L'incroyable se produit. Les habitants croient que ce curieux personnage dit la vérité, qu'il parle au nom de l'Éternel et que ce Dieu a le pouvoir de détruire Ninive. Ils croient aussi que, s'ils s'humilient, Dieu leur fera grâce. Après la ville de Calah, c'est donc au tour des habitants de Ninive de se repentir. Que toute une agglomération s'humilie, comme un seul homme, devant le Dieu du ciel, est extraordinaire. Et d'ailleurs, peu de gens acceptent cette version des faits, surtout que les annales des rois d'Assyrie n'en parlent pas du tout. Mais c'est compréhensible, car les documents officiels s'inscrivent pas ce qui fâche ou embarrasse. Aucune des archives égyptiennes ne mentionne le départ du peuple hébreu, sa traversée de la mer Rouge et l'anéantissement de l'armée de Pharaon qui poursuivait Israël. Sous le règne de Sennachérib, les Assyriens n'ont jamais reconnu avoir perdu leur armée qui assiège Jérusalem. Pourtant, dans le second livre des rois en lit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp des Assyriens et y fit périr 185 000 hommes. Le lendemain au matin, le camp était rempli de tous ses cadavres. Que ces événements extraordinaires n'aient pas laissé de traces ne prouve pas qu'ils n'ont pas eu lieu. Contrairement au peuple païen, les textes sacrés relatent aussi bien les circonstances positives que négatives des rois des deux royaumes israélites. Pour ce qui est des habitants de Ninive, et comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, il faut se rappeler qu'il s'était passé plusieurs phénomènes que les Assyriens considèrent troublants et signes de mauvais augure. Il y a eu une famine en 765 avant Jésus-Christ, une éclipse du soleil en l'an 763 et des rébellions de plusieurs villes contre l'autorité royale assyrienne qui durèrent jusqu'en 758. Ces événements ont marqué les esprits et créé un climat d'insécurité qui dispose favorablement les habitants de Ninive au message de Jonas. Leur réaction est davantage motivée par une peur superstitieuse que par une foi authentique en l'Éternel. Comme les Assyriens s'attendent à ce qu'une catastrophe survienne d'un jour à l'autre, ils sont psychologiquement et spirituellement conditionnés à faire n'importe quoi pour y échapper. Sur ces entrefaites arrive Jonas avec des menaces, mais aussi avec la possibilité de bénéficier de la miséricorde divine. Par ailleurs, il est fort probable que les habitants de Ninive ont entendu parler de l'Éternel, de Dieu des Hébreux, et de ses deux grands prophètes Élie et Élisée. Et maintenant, ce Dieu envoie dans leur ville l'un de ses porte-paroles qui, à ses dires, a été miraculeusement sauvé de la noyade afin qu'il annonce aux Assyriens qu'au moins d'un changement radical de comportement, leur capitale et son agglomération seront réduites en cendres. L'apparition soudaine de cet inconnu qui ose prédire la destruction de Ninive de la part de l'Éternel doit donc faire une profonde impression sur la mauvaise conscience des Assyriens et donc on peut comprendre qu'il se soit fait tout petit. On sait que les Assyriens ont cru les paroles du prophète parce que dans l'Évangile selon Luc, Jésus enseigne que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il faut aussi remarquer que selon les paroles mêmes du Seigneur, ce n'est pas seulement la prédication du prophète qui a ébranlé le peuple, mais aussi sa personne. En effet, Jonas parle avec une autorité qui n'admet aucune réplique. Les Assyriens peuvent observer le courage du prophète et lire sa conviction sur ses lèvres. Comme il avale tout cru les histoires fantaisistes que leur racontent leurs propres voyants, les menaces de Jonas, prononcées avec une assurance sans pareille, les interloquent et les secouent jusque dans les tréfonds de leur être. Comme dans leur âme et conscience, ils savent très bien que leurs actions sont coupables. Le message de Jonas n'est pas une nouvelle révélation, mais une confirmation de ce qu'ils craignent. Voilà pourquoi ils croient sur parole, prophète de l'Éternel, et proclament spontanément un jeûne national de contrition. Ils mettent les drapeaux en berne, tous les commerces tirent leurs rideaux, les salles de spectacle sont fermées, enfin, quelque chose comme ça. Ce qui est surprenant est que ces initiatives sont un élan national sans ordonnance officielle. Il faut aussi dire que ces actions dramatiques ont pour unique but d'apaiser Dieu, le Dieu Tout-Puissant, très en colère. Les Assyriens sont sincères avec eux-mêmes dans leurs limites de leur vision religieuse du monde. Mais cette remise en question fut éphémère et superficielle, car, de toute évidence, elle s'est éteinte aussi vite qu'un feu de paille. S'il est vrai que tout ce que Dieu demande à un être humain est de croire en lui, la vraie foi n'est pas un simple acquiescement comme quoi il y a un Dieu quelque part. En ce qui nous concerne, la foi authentique est une action très spécifique qui consiste à placer sa confiance en Jésus, à l'accepter comme son sauveur, parce que c'est lui qui a réalisé l'œuvre du salut en mourant sur la croix pour les péchés des hommes. Je continue le texte. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes, comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître ou de boire de l'eau. Le roi n'est pas à l'origine de ce mouvement national de repentance, mais l'ayant appris, il est saisi de crainte comme ses sujets. Alors il donne l'exemple d'une profonde repentance et amplifie les ordonnances déjà publiées par les magistrats de la ville en étendant la rigueur du jeûne aux animaux des champs, car l'heure est grave et c'est le salut de tous qui est en jeu, hommes et bêtes. La participation d'un roi à une humiliation nationale n'a rien d'exceptionnel. En 793 avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie adresse au gouvernement d'une ville au nord-est de la Syrie le message suivant. Lamentez-vous, priez, repentez-vous pendant 3 jours, vous, peuple, pays, campagne, et accomplissez les rites de purification. D'après des archives retrouvées avant la chute de Ninive aux mains des Babyloniens, le roi en place décrète un jeûne de 100 jours et s'ennuie au Dieu, afin qu'il détourne le danger que représente leur ennemi qui assiège la ville. Bien que les monarques assyriens possèdent une autorité absolue, le texte dit « par ordre du roi et de ses ministres ». Si dans le cas présent, le roi associe ses conseillers à son décret, c'est par humilité, parce qu'il est réellement terrifié par le message de Jonas. Que les animaux soient également privés de nourriture peut surprendre, car n'ayant pas de sens moral, ils sont innocents et ne portent donc aucune responsabilité à l'égard des comportements répréhensibles de leur maître. Cependant, comme ils partagent les joies et les peines des hommes, ils sont inclus dans de telles manifestations. Cette association était répandue dans tout le Moyen-Orient. Hérodote, 484 à 425 avant Jésus-Christ, considéré comme le père de l'histoire, écrit qu'une fois les Perses ont coupé la crinière et les queues de leurs chevaux et de leurs mules en signe de deuil national. Quand j'étais enfant, les corbillards étaient encore tirés par des chevaux et on les revêtait de noir signe de deuil. Ce qui montre que la participation des animaux aux tragédies humaines n'a rien d'étonnant. Comme les animaux et les êtres humains vivent ensemble, il va de soi qu'ils partagent plus ou moins le même sort. Mais on retrouve aussi cette logique dans les Écritures, et dans plusieurs passages on constate que les bêtes des champs subissent le jugement de Dieu contre les hommes. C'est ce qui est arrivé lors du déluge, par exemple. Par contre, les animaux bénéficieront également des bénédictions du millénium. Ésaïe écrit « Le loup vivra avec l'agneau. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte. et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Je continue le texte de Jonas. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. D'après l'histoire du peuple assyrien, et comme je l'ai déjà dit, on sait que la foi des habitants de Ninive au Dieu de Jonas fut de courte durée. Cependant, au moment de sa prédication, elle est relativement sincère, puisqu'elle produit l'humiliation et le renoncement au mal. C'est en tout cas la vie de Jésus qui a dit « Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. » L'arrogance, la violence et la cruauté sont des spécialités des Assyriens qui ne se lassent pas de faire la guerre, de conquérir d'autres peuples et de les oppresser sans pitié. Le prophète Nahum menace Ninive en disant « Malheur à toi, ô ville, qui te repais de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ses rapines, fouet qui claque, fracas des roues, des chevaux au galop, déferlant de charges des cavaliers, flamboiement des épées, éclairs des lances, blessés sans nombre, amas de corps, à perte de vue, des cadavres en trébuchent sur eux. » Et contre les Assyriens en général, Ésaïe prophétise. « Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur. J'interviendrai contre le roi de la Syrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant, car il a déclaré « C'est par ma propre force que j'ai fait tout cela, et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid, comme on s'empare des œufs abandonnés. J'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes, ou pour ouvrir le bec, ou pour siffler. Le roi d'Assyrie qui règne au temps de Jonas sait que les signes extérieurs de la repentance n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas accompagnés d'un changement moral sincère. Ce principe est aussi la substance du message de tous les prophètes que l'Éternel envoie aux Israélites. Par exemple, Jérémie exhorte le peuple de Juda en disant « Que chacun de vous abandonne sa mauvaise conduite et ses actes mauvais. Alors, vous demeurerez dans le pays que l'Éternel vous a donné, à vos ancêtres et à vous, depuis toujours et pour toujours. Mais les Juifs n'ont voulu ni entendre, ni comprendre, ni accepter cette vérité. » Je continue le texte. Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. On peut ressentir un sentiment touchant dans ce soupir des habitants de Ninive, dans ces appels simples et humbles que le roi, au nom du peuple, adresse à l'Éternel, qui reconnaît comme le Dieu suprême, mais aussi celui qui est plein de miséricorde. Le spectacle des habitants de Ninive, qui portent le deuil en attendant la décision divine, est une scène émouvante. Le prophète Joël manifeste les mêmes émotions aux Israélites du Nord quand il leur dit « Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur qu'il avait menacé. Qui sait ? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite ? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu ? Je finis maintenant de lire le chapitre 3 de Jonas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il avait menacé. Il s'en abstint. L'auteur, Jonas, exprime par anticipation ce que Dieu va faire suite à la repentance des Assyriens. Comme je l'ai déjà dit, dans les archives assyriennes, il n'existe évidemment aucune trace de ce changement moral, pourtant extraordinaire. Mais ce n'est guère étonnant, parce que les peuples antiques ne mentionnent que les accomplissements dont ils sont fiers, comme les guerres victorieuses et les constructions pharaoniques qu'ils réalisent. Pareillement, les Romains ont voulu qu'on les considère comme des bâtisseurs et des conquérants. Par l'intermédiaire de Jonas, l'Éternel a prononcé un jugement conditionnel sur Ninive. Comme les habitants se sont humiliés, Dieu renonce à faire venir la catastrophe dont il les a menacés. Ce n'est pas qu'il regrette ce qu'il avait décidé ou qu'il a changé d'avis, mais parce que les hommes ont réagi à la menace en se repentant et en abandonnant leur agissement abominable. Il renonce à son projet de les exterminer. Dieu tient en effet compte des comportements des hommes, et il adopte à leur égard une ligne de conduite qui correspond à leur attitude. Le prophète Jérémie écrit « Une fois je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. » Parce que Dieu est toujours prêt à pardonner, on peut véritablement dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.